Vous écoutez, on lit pour vous.
Fuir la violence conjugale en pleine crise du logement. Un texte de Malia Kunku, paru le 28 juin 2024 dans Urbania. L'organisme Transit Secours aide les femmes à trouver un nouveau toit malgré les embûches. C'est vraiment un privilège de participer au moment crucial de la vie d'une femme qui choisit de repartir à zéro, se réjouit Anatalie. Car chaque déménagement laisse une marque indélébile chez ceux qui le facilitent, en particulier à Nathalie Jean-Charles, directrice de la succursale montréalaise de Transit Secours. Connue dans le reste du Canada sous le nom Shelter Movers, cet organisme à but non lucratif mobilise de nombreux bénévoles pour déménager et entreposer gratuitement les affaires de personnes qui vivent des situations de violence. En avril, on a déménagé une cliente qui, après un AVC, souffrait de séquelles de langage et d'expression faciale. Mais sa joie et sa résilience m'ont vraiment marqué. La branche montréalaise a été inaugurée en 2020 et se spécialise dans les cas de violence genrée. En un mois, l'organisme peut recevoir une quarantaine de demandes et effectuer en moyenne 4 déménagements par semaine, y compris celui du mois d'avril, dont Anatalie poursuit la narration. Après son AVC, l'ex-conjoint de cette cliente qui était déjà violent avec elle l'est devenu encore plus, et des agresseurs qui profitent d'une vulnérabilité pour être plus abusifs, on le voit souvent, malheureusement, soupire-t-elle. Le déménagement s'est toutefois fait dans la bonne humeur, à l'exception de l'ex-partenaire qui rôdait sur le trottoir, impuissant face aux allées et venues des bénévoles. La cliente, elle, était accompagnée d'une amie venue la soutenir, et toutes deux blaguaient dans une sorte de langage secret tout en le regardant ruminer au loin. Elles avaient développé un code adapté à la déformation de langage de la cliente, juste pour pouvoir se moquer de l'agresseur et parler de lui en mal, rit encore à Nathalie en se remémorant la scène. C'était vraiment rafraîchissant à voir, cette combativité. Ce n'est pas parce qu'on se prend des coups et des insultes qu'on n'est pas capable de se défendre. De plus, le déménagement a réuni suffisamment de bras bénévoles pour permettre un travail à la chaîne rapide et efficace, notamment au moment de gravir les escaliers avec des meubles et des électroménagers dans les bras. À la fin, elle voulait même nous offrir de la pizza, puis, quand on est parti, elles sont allées sur le balcon pour nous saluer de loin, poursuit Anatalie, touchée par une gratitude que semblent ressentir toutes les personnes ayant recours à Transit Secours. Courir contre l'urgence. On dit qu'une femme qui part sans ses effets retournera 6 fois vers son agresseur avant de le quitter définitivement, explique Anatalie. Et chacun de ces retours augmentera l'imminence d'un potentiel féminicide, ce crime genré et haineux à l'endroit des femmes dont la tendance ne fait que grimper d'un bout à l'autre du monde. Pendant le mois de janvier 2024 seulement, on dénombrait déjà 240 femmes tuées dans 26 pays, autant de féminicides présumés en 4 mois que pour toute l'année 2023, annonçait en mai 2024 Le Devoir pour le Québec. Plus rapidement une femme est en mesure de sortir d'un milieu violent, plus ses enfants et elle seront en mesure d'être protégés d'une escalade de cette violence, plaide Anatalie. D'où la nécessité d'agir vite, mais en équipe. En effet, Transit Secours n'assure que le déménagement d'un appartement à l'autre, ou, si la personne est en maison d'hébergement, l'entreposage de ses affaires, le temps qu'elle se trouve un logement. C'est donc ici qu'interviennent les maisons d'hébergement qui, la plupart du temps, ont déjà pris en charge la cliente en amont de son déménagement et établissent avec elle la liste des informations pertinentes au bon déroulement de l'opération. Le volume d'affaires personnelles de la cliente, le niveau de sécurité des lieux. Il peut toutefois arriver que des clientes refusent de déménager leurs affaires, comme m'informe Annick Brazeau, présidente du regroupement des maisons pour femmes victimes de violences conjugales. Certaines affaires sont tellement rattachées à de mauvais souvenirs qu'elles ne veulent même pas les récupérer et préfèrent tout recommencer à zéro, explique-t-elle. Mais pour celles qui souhaitent les récupérer, on regarde ensemble ce qui peut être fait. Si elles sont sur l'aide sociale, on fait la démarche avec elles. Sinon, on les aide à remplir une demande pour transit secours, poursuit-elle. Ces informations permettent à l'organisme de se préparer en fonction du risque que l'agresseur soit présent sur les lieux au moment du déménagement et du degré d'urgence de la situation pour la cliente. Par exemple, si la cliente est encore dans un milieu abusif et vit dans la crainte d'être agressée à nouveau ou tuée, on parlera d'une urgence à risque élevé. Les intervenants qu'elle aura contactés pour obtenir de l'aide vont donc coordonner une sortie d'urgence avec Transit Secours qui se fera dans la semaine et sous escorte policière. Si l'agresseur ne coopère pas, le déménagement devra se faire en moins de 2 heures, de peur que la situation ne dégénère. Récemment, on a vécu une situation rocambolesque où l'agresseur était là, alors qu'il ne devait pas être sur place, et avec en plus un mandat d'arrêt contre lui. Heureusement, la police est rapidement venue l'arrêter, raconte Anatalie. Plus de peur que de mal. Les bénévoles ont finalement pu terminer le déménagement de la cliente en toute quiétude. Vous écoutez « Fuir la violence conjugale en pleine crise du logement », un texte de Malia Kounkou, paru le 28 juin 2024 dans Urbania. Un signe des temps. Ah, s'il pouvait y avoir transit secours partout au Québec, on serait bien content. Mais ce n'est pas le cas, regrette la présidente du regroupement des maisons pour femmes victimes de violences conjugales. Dans l'Outaouais, Annick a dû négocier avec l'équipe Shelter Movers de l'Ontario pour que ses bénévoles desservent également sa zone et regrette que la structure ne soit pas plus développée au Québec. Il faut qu'on fasse plus connaître ces initiatives et qu'on tende aussi la perche aux bénévoles dans les régions parce qu'il y en a tellement, mais peu savent que des structures comme Transit Secours existent. La violence conjugale touche énormément de personnes et elles veulent aider. Elles veulent faire partie de la solution. Donc, ça en prend juste une pour organiser le tout. Le besoin d'une structure d'aide plus connue et plus étendue se fait donc criant, même au sein de la région de Montréal où Transit Secours siège. Car, selon Anatalie, même en restreignant temporairement sa cible aux personnes victimes de violences genrées, l'organisme ne s'en est pas retrouvé désengorgé pour autant. Bien au contraire, sur 6 à 10 demandes par semaine, seulement 4 déménagements peuvent être faits, et pour ceux moins urgents, les délais d'attente peuvent s'étaler de 3 à 8 semaines. Si le taux d'appel ne diminue pas, c'est aussi un signe des temps. Les féminicides augmentent et le gouvernement ne nous finance pas assez, estime Anatalie. Car, aussi bénévole que soit l'initiative, elle demande des moyens assurant l'efficacité et la sécurité de ses opérations, comme la location de véhicules anonymes, ou la mise à disposition d'entrepôts qui serviront aux clientes en attente d'un logement. Si elles en trouvent. Car, avec la crise actuelle du logement, beaucoup de femmes ayant quitté la violence de l'intime se heurtent maintenant à la violence d'un marché privé qui leur est hostile. Pourtant, sur papier, ces femmes devraient bénéficier d'un accès prioritaire au logement social et, grâce au programme de supplément au loyer, peuvent même habiter au privé avec un loyer de logement social. Mais les préjugés de certains propriétaires empêchent souvent de mettre ces mesures en place, selon Annick. Ils vont juste voir qu'elles ont vécu de la violence, sont immigrantes, ont beaucoup d'enfants ou possèdent un animal de compagnie, et ce sera aussitôt un refus. Beaucoup ont un biais négatif envers les femmes qui ont vécu de la violence, remarque-t-elle. Et si les propriétaires commençaient juste par laisser une chance à ces femmes? La troisième option. Et ainsi est nourri le cercle vicieux qui maintient les femmes dans la violence. Si elles regardent à gauche, elles voient le coût des loyers exploser. Si elles regardent à droite, elles voient des évictions sans fondement réel. Et devant elles, la seule proposition de logement qu'elles ont n'accepte pas leur chien, qui est pourtant leur dernière bouée de sauvetage après avoir tout perdu. Les seules portes de sortie envisageables à ce stade, retourner dans la violence qu'on a quittée ou l'itinérance. Comme le marché privé est mal régulé, tous les ingrédients sont là pour que la mauvaise pâte lève et que les abus vécus par les femmes augmentent, déplore Céline Magontier, organisatrice communautaire et responsable des dossiers femmes au Frappru. Annick et elle s'entendent sur le manque de logements sociaux, ces lieux cruciaux à la reconstruction de ces femmes que les loyers modiques rendraient accessibles à de nombreuses personnes dans le besoin. Les logements sociaux permettent l'émancipation, la protection et la sécurisation des femmes. Si, au Frappru, on veut que 10 000 soient construits par année, c'est parce qu'ils répondent à ce droit fondamental de se loger, estime Céline. La crise du logement est une violence systémique où les femmes et les personnes à l'intersection de plusieurs oppressions sont les grandes perdantes, affirme-t-elle. Certes, d'un point de vue extérieur, le tableau est peu reluisant, mais Annick craint que les femmes en situation de détresse ne soient dissuadées d'appeler à l'aide, l'état du marché locatif tuant leur motivation dans l'œuf. Je sais que beaucoup regardent la limite des 3 mois de séjour en maison d'hébergement et se disent qu'elles ne trouveront aucun logement, qu'elles seront obligées de retourner auprès de leur conjoint, explique-t-elle. Mais si elles nous appellent, elles sauront que les 3-4 femmes qui viennent de partir ont toutes trouvé un logement. Car des solutions alternatives existent et mériteraient d'être plus connues pour contrer le pessimisme ambiant. On a des maisons de 2e étage dans lesquelles les femmes ayant vécu de la violence conjugale peuvent habiter pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, révèle Annick. Quant aux possibilités de déménagement dans des zones où transit secours ne serait pas encore déployé, elles existent et peuvent être trouvées pour chaque situation unique. On regarde si elle a des amis, des voisins ou de la famille qui peuvent l'aider. Si une connaissance a un garage dans lequel mettre temporairement ses affaires, si elle peut mettre des sous de côté ou en emprunter pour se payer un déménagement ou un entrepôt, on cherche avec elle, énumère Annick. Notre rôle, c'est vraiment de rassurer, d'écouter. On ne va jamais les forcer à partir, mais on va leur dire que des solutions existent. Un appel confidentiel n'engage donc à rien, sinon à raccrocher avec une goutte d'espoir en plus. C'était « Fuir la violence conjugale en pleine crise du logement », un texte de Malia Kunku paru le 28 juin 2024 dans Urbania.
Matière à réflexion, un texte de Vincent Brideau paru le 6 juin 2024 dans l'Acadie Nouvelle au Nouveau-Brunswick. Plusieurs années passées, j'écoutais un épisode de l'émission Dr. Phil, dans lequel il a dit une phrase que je n'ai jamais oubliée. Il s'adressait à un couple dévasté d'avoir perdu un jeune enfant par noyade. Je me souviens très bien de cette phrase. Citation. « You won't hear me say, I know how you feel, because I don't. » Fin de citation. Ma traduction simple, je ne vais pas vous dire « je sais ce que vous ressentez » car je ne le sais pas. Je n'ai écouté que quelques épisodes de cette émission, ici et là, et je n'ai aucune idée de la véracité des cas discutés, mais par cette phrase, Dr. Phil a gagné beaucoup dans mon estime. Dans l'Acadie Nouvelle du mercredi 5 juin, en page 2, on citait Angela Robinson, veuve du gendarme Fabrice Gavaudan, citation, « La vérité, c'est qu'il s'agit de quelque chose que vous ne pouvez pas réellement comprendre tant que vous l'avez vécu. Et même là, nous vivons tous cette expérience de façon différente. » Fin de citation. Je pense qu'il est très difficile, voire impossible, de comprendre ce que les autres vivent dans des situations particulières que l'on n'a pas vécues soi-même, quelle que soit la situation. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui pensent qu'ils peuvent savoir comment les autres se sentent. Je ne vais pas nommer de nom et je ne vais pas porter de jugement non plus, car ce serait me contredire. Par contre, j'invite quiconque pense avoir la vérité absolue d'essayer de se mettre dans la peau des autres avant de prétendre savoir ce qui est bon pour eux. J'allais tenter de développer un peu plus mon idée, mais je ne pense pas que ce soit nécessaire. Le plus triste dans tout cela, c'est qu'il faudrait se mettre dans la peau de ceux qui ont des idées préconçues pour essayer de comprendre ce qu'eux ressentent. J'aurais aimé avoir une piste de solution, mais je n'en ai pas. Au mieux, peut-être de la matière à réflexion. C'était « Matière à réflexion », un texte de Vincent Brideau, paru le 6 juin 2024 dans l'Acadie Nouvelle au Nouveau-Brunswick.
Pourquoi les hommes ont-ils une pomme d'Adam, mais pas les femmes? Un texte paru le 11 mai 2014 dans le magazine Québec Science. Il faudrait, en fait, poser la question autrement. Pourquoi les hommes ont-ils une plus grosse pomme d'Adam que les femmes? Eh oui, cette partie du larynx est aussi présente chez elles, mais elle est plus petite. Les scientifiques appellent proéminence laryngée, cette petite bosse que tu peux sentir en haut de ta gorge. C'est un petit bouclier qui protège les cordes vocales. Il est fait du plus gros cartilage de ton larynx. Ces cartilages sont des anneaux qui soutiennent les tissus mous à l'intérieur du larynx. Ils lui donnent ainsi la forme d'un tube. Mais pourquoi donc ce cartilage est-il plus volumineux chez l'homme? À cause de la testostérone, cette substance chimique produite au niveau des reins et surtout dans les testicules des garçons. Elle appartient à la grande famille des hormones. Ces messagers communiquent avec certaines parties du corps pour leur commander une tâche. Le message porté par la testostérone s'adresse surtout aux organes sexuels. Au moment de la puberté, les garçons fabriquent de plus en plus de testostérone. Elle va alors demander à plusieurs parties du corps de grandir comme la pomme d'Adam. Ce changement s'entend aussi. Les cordes vocales se développent et la voix devient plus grave. C'est la fameuse mue. On retrouve aussi des messagers chimiques chez les filles. Par exemple, les estrogènes. Ils agissent un peu comme la testostérone, mais colportent des messages différents comme le grossissement de la poitrine. C'était « Pourquoi les hommes ont-ils une pomme d'Adam mais pas les femmes ?» un texte paru le 11 mai 2014 dans le magazine Québec Science.
Des faux nus aux conséquences bien réelles, un texte d'Anaïs Desjardins, paru le 1er juillet 2024, dans la presse. La création de faux nus, grâce à l'intelligence artificielle, en utilisant la technique de l'hypertrucage ou deepfake, prend de l'ampleur dans les écoles secondaires du pays. Un phénomène aux lourdes conséquences sur les victimes qui inquiète les acteurs du milieu. Ce qu'il faut savoir, la création de faux nus grâce à l'intelligence artificielle prend de l'ampleur dans les écoles secondaires du pays et des experts sonnent l'alarme. Les sites et les applications, souvent gratuits, permettant de créer ce type d'image, se développent et se multiplient, alors que les restrictions encadrant les entreprises et l'éducation auprès des jeunes, non. Si les faux nus correspondent à de la pornographie juvénile, les jeunes réalisent rarement que leurs actes ont une portée criminelle. Dans une école secondaire de Montréal, des membres de la direction et des professeurs reçoivent les photos nues d'adolescentes de l'établissement. Elles ont été envoyées par des élèves de la même année. Les images sont à s'y méprendre. Elles semblent réelles à première vue. Le service de police de la ville de Montréal, SPVM, ouvre une enquête. Le verdict tombe. Les images ont été générées par intelligence artificielle à partir de photos habillées des victimes mineures. Mais les visages sont vrais. Maya Allier est sergente détective et superviseure du module cyber-enquête du SPVM. C'est son équipe qui a enquêté sur ce dossier il y a quelques années. L'événement était en avance sur son temps, dit-elle. Mais depuis, de nombreux autres cas du genre ont été signalés dans les écoles, et plusieurs experts sonnent l'alarme. Le phénomène se produit toujours de la même façon. « J'ai eu un cas similaire cette année », souligne Maya Alliet. Juste pour cette année, la policière s'attend, pour le SPVM, à environ 10 à 12 cas de faux nus créés par des adolescents et montrant une ou des adolescentes. Le Centre canadien de protection de l'enfance, CCPE, remarque aussi une hausse des signalements au Canada. Au cours des 12 derniers mois, 4000 cas d'images hyper-truquées sexuellement explicites de mineurs ont été rapportés, ce qui inclut des cas de pédopornographie, de sextorsion et de faux nus créés par des adolescents, selon le porte-parole René Morin. Même constat au bureau du directeur des poursuites criminelles et pénales des PCP. Maître Maxime Ouellette, procureur et instigateur du projet Sexto, mis en place en 2016, remarque qu'une tendance s'installe. Il y a 12 à 18 mois, il entendait peu parler de cas de faux nus entre ados. Phénomène récent. Pour maître Ouellette et maître Joanie Saint-Pierre, aussi procureurs au DPCP, les chiffres ne sont pas encore alarmants, mais le phénomène l'est. « Je pense, dit-elle, qu'on est vraiment à la veille d'un phénomène qui s'en vient en explosion. Mais je ne suis pas convaincue qu'on le voit encore dans les cas d'enquête policière et les tribunaux. Le phénomène est récent et les images ne sont pas toujours reconnues comme fausses. Si les images sont créées, mais qu'elles ne sont pas signalées, les chiffres ne sont pas compilés. On a souvent l'image du gars un peu gêné dans son sous-sol » qui n'osent pas entrer en contact avec d'autres, mais c'est rarement le cas, explique Maître Saint-Pierre. Selon les procureurs, il existe autant de raisons de créer ces images qu'il y a d'adolescents. Un adolescent pourrait télécharger des images de sa copine hyper truquée pour rire. Un autre, celle d'une camarade de classe pour la harceler ou l'intimider. Les sites et les applications, souvent gratuits, permettant de créer ce type d'image, se développe et se multiplie. Les restrictions encadrant les entreprises et l'éducation auprès des jeunes, non. On rame à contre-courant des nouvelles technologies, souligne Mme Alliet. Certains sites ou applications n'ont pas été créés pour l'hyper-trucage. D'autres ont des pare-feux. Toutefois, la sergente détective du SPVM estime que les jeunes n'ont aucune difficulté à utiliser les sites. Selon René Morin, le phénomène actuel de faux nus dans nos écoles n'est pas sans rappeler celui du sextage à ses débuts, alors qu'il prenait de court les établissements scolaires. De nombreuses conséquences. Anxiété, idées suicidaires, isolement, quête perpétuelle pour éliminer les photos nues sur le web. Les conséquences sur les victimes sont aussi graves que si les photos étaient réelles. Les images étant d'abord jugées réelles, la pression repose sur les épaules des victimes, explique Maître Saint-Pierre. La prise en charge des victimes par les écoles ou la police peut prendre plusieurs jours, voire plusieurs semaines, et il y a de lourdes conséquences. Si les faux nus correspondent à de la pornographie juvénile, les jeunes réalisent rarement que leurs actes ont une portée criminelle. Julie Miville-Dechêne est sénatrice indépendante et instigatrice du projet de loi fédérale sur l'exposition des jeunes à la pornographie. Pour elle, la popularité du phénomène des faux nus auprès des adolescents est la conséquence directe de la normalisation de la pornographie. Actuellement, aucune loi fédérale n'encadre l'hypertrucage photo, audio ou vidéo. Le projet de loi C-27 sur l'intelligence artificielle et le projet de loi C-63 sur les préjudices en ligne sont en première lecture à la Chambre des communes. Ces deux lois permettraient d'encadrer le phénomène. Le Canada traîne la patte. dit la sénatrice Julie Miville de Chêne, la législation est nécessaire et c'est urgent. Laurent Charlin, professeur agrégé à HEC Montréal et titulaire d'une chaire en IA Canada CIFAR, reconnaît qu'il est essentiel de mettre en place des lois. Pourtant, il souligne que cela ne semble pas être suffisant puisque les pays n'ont pas toujours la capacité de les mettre en œuvre et de poursuivre les entreprises fautives. Pendant longtemps, on ne pensait pas à une intelligence artificielle éthique ou à des garde-fous, explique-t-il. Le meilleur moyen de faire face au phénomène des faux nus est de sensibiliser les jeunes aux nouvelles technologies et à leur impact. En 2024, on devrait s'assurer de la sécurité numérique de nos enfants, comme quand on leur apprend à nager, croit Maître Saint-Pierre. Prévention et conseil. Comment éviter que les adolescents créent de faux nus ou en soient victimes? Voici les conseils de la sergente détective Maya Alliet du SPVM et de Maître Maxime Ouellette et Maître Joannie Saint-Pierre, procureur du DPCP. Mesures de prévention. Limiter son exposition en ligne et les photos de son visage. Avoir recours à un filtre social pour déterminer qui peut accéder à son profil et visionner ses publications. Dans l'incertitude, analyser les détails d'une photo pour tenter d'y déceler la présence d'aberrations et d'anomalies. Ne pas partager d'images qu'on n'a pas prises, puisqu'on n'en connaît pas la source. Ne pas envoyer de photos intimes de soi, même à un amoureux. Conseil aux parents. Rappelez aux jeunes qu'ils sont responsables de leurs actions en ligne au même titre que dans la vie réelle. Parlez à ses enfants des risques et des conséquences de la création d'images hypertruquées, représentant d'autres élèves, notamment dans un contexte sexuel. Les conséquences sont criminelles. Recevoir avec bienveillance une victime si elle se confie sur les faux nus ou l'hypertrucage dont elle a fait l'objet. Communiquer avec l'école et la police lorsque l'on connaît une victime de faux nus ou d'hypertrucage, pour qu'une enquête soit ouverte et pour être dirigée vers les bonnes ressources. C'était « Des faux nus aux conséquences bien réelles », un texte d'Anaïs Desjardins, paru le 1er juillet 2024 dans la presse.